Chapitre 56. Quelque chose cloche. Quand elle entendit toquer à un poteau à l'extérieur de sa tente, Egwen leva la tête des documents qu'elle examinait et invita son visiteur à entrer. Gawain se glissa entre le rabat et la toile. Renonçant à ses beaux atours, il portait un pantalon marron et une chemise d'une nuance plus claire. Une cape caméléon pendait dans son dos. Grâce à elle, il se fondait dans n'importe quel environnement. Pour sa part, Egwen rayonnait dans une robe vert et bleue très régalienne. La cape du jeune homme bruissa quand il s'assit en face de la jeune dirigeante.
« L'armée d'Elaine est en train d'arriver. »«
Parfait !»
fit Egwen. Gawain hocha la tête, mais il était troublé. La boule d'émotion engendrée par le lien était vraiment très utile. Si Egwen avait connu plus tôt la dévotion qu'éprouvait cet homme pour elle, elle l'aurait pris pour champion des semaines plus tôt.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda-t-elle, délaissant la paperasse.
Oh, Ibarra, il n'a pas accepté de te rencontrer.
Elaine m'a prévenu qu'il serait rétif.
Je crois qu'il prendra le parti d'Altor. Il suffit de voir comment il a dressé son camp, très à l'écart de tous les autres. Et il a tout de suite envoyé des messages aux Théariens et aux Aiel. Il a une bonne armée, très puissante, avec des capes blanches dans ses rangs.
En quoi ça laisse penser qu'il se ralliera à Rand ? Au contraire.
Eh bien, il n'a pas l'air d'avoir envie de prendre notre parti. Egwen, le chef des fils, c'est Galad.
Ton frère ?
Oui, c'est terrible. Toutes ces armées, avec tant d'allégeances différentes, massées les unes à côté des autres. Aibara et ses troupes risquent d'être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres.
Quand Elaine sera là, ça ira mieux.
Egwen, et si Altor ne venait pas ? Imagine qu'il ait monté ce coup pour aller faire ce qu'il veut très loin d'ici.
Pourquoi aurait-il ourdi une machination pareille ?
Demanda Egwen.
Il a déjà prouvé qu'il peut être introuvable quand ça l'arrange.
Elle secoua la tête.
Gawain, il sait qu'il ne doit pas briser ses sceaux. Une part de lui en a conscience, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'il m'a informé de son projet. Afin que j'organise la résistance pour le convaincre de renoncer.
Gawain acquiesça sans discutailler ni se plaindre. Egwen n'en revenait pas qu'il ait tant changé. Aussi passionné qu'avant, mais beaucoup moins corrosif. Depuis la terrible nuit avec les tueurs, il avait même pris le pli d'obéir à la chair d'Amyrlin. Pas comme un domestique, mais à la manière d'un partenaire soucieux que les choses aillent comme elle le voulait. Un merveilleux changement. Et d'une grande importance, puisque le hall de la tour semblait résolu à reprendre à Egwen le droit exclusif de traiter avec Rand. Dans la pile de documents sur le bureau, il y avait toute une série de lettres de représentantes donnant humblement leur avis sur la question. Mais ces femmes communiquaient avec elle, au lieu d'outrepasser son autorité. C'était une bonne chose. Et Egwen ne pouvait pas se permettre de les ignorer. Au contraire, elle devait continuer à leur faire croire que leur coopération était bienvenue. Un équilibre si précaire.
Bien, dans ce cas, allons à la rencontre de ta sœur.
Gawain se leva souplement. Les trois anneaux qu'il portait autour du cou, accrochés à une chaîne, tintinabulèrent quand même. Egwen ne lui avait pas encore demandé d'où il tenait ses bijoux. Et il n'en avait pas dit un mot jusque-là. Alors qu'il écartait le rabat pour elle, la jeune dirigeante sortit de la tente d'un pas gracieux. Dehors, le soleil de la fin d'après-midi disparaissait derrière des nuages gris. Sur le périmètre du camp, les soldats de Braine s'échinaient à ériger une palissade. L'armée du général avait beaucoup grossi ces dernières semaines. Du coup, elle dominait toute la partie orientale de la grande prairie bordée par une forêt qu'on appelait jadis le champ de Merilor. Merilor n'était pas une personne, mais une tour forteresse en ruine qui se dressait sur le nord du site, couverte de mousse et presque enfouie sous la végétation. La tente d'Egwen était située sur une élévation d'où elle pouvait observer les autres camps.
« Celui-là n'est-il pas nouveau ? »
demanda-t-elle en désignant une petite force qui s'était installée au pied des ruines.
« Une troupe indépendante, » répondit Gawain. « Des fermiers pour l'essentiel. Pas une véritable armée en tout cas. La plupart des hommes n'ont pas d'épée. Des fourches, des haches de bûcheron. Je suppose que c'est Altor qui les envoie. Ils sont arrivés hier, et ils vont et viennent partout.
Bizarre, »
souffla Egwen. Ces hommes semblaient venir d'un peu partout. Équipés de tentes dépareillées, ils semblaient ne pas trop savoir comment dresser un camp. Mais ils étaient entre 5 et 10 000.
Étrange, oui,
approuva Gawain. Tournant la tête, Egwen vit que des colonnes entières se déversaient de plusieurs portails, non loin de là. Au-dessus des hommes en rang impeccable, le lion d'Andorre flottait fièrement. Un petit groupe en rouge et blanc s'était écarté des autres pour se diriger vers le camp des Gwen. L'étendard de la reine flottait au-dessus de cette délégation. Gawain accompagna Egwene, traversant les herbes jaunies pour aller accueillir la reine d'Andorre. Un jour de retard sur la date spécifiée par Rand, mais elle était venue, comme tous les autres. Des Aiel accompagnaient Darlin, arrivée de Théar. À force de persuasion, Egwene avait réussi à faire se déplacer un gros contingent de l'armée ilianienne qui campait dans la partie orientale du champ. Selon certains rapports, les Kerienniens étaient désormais des sujets d'Elaine. Pour preuve, ils arrivaient en même temps que les Andoriens et une partie importante de la compagnie de la Main Rouge. Egwene avait envoyé une sœur proposer au roi Roedran du Murandi de le faire voyager jusqu'ici. Mais rien ne garantissait qu'il accepterait. Même sans lui, un grand nombre de pays étaient présents. Surtout depuis que les étendards de Gealdan et de Mayenne se mêlaient à la tête de loup des forces de Perrin. Egwene devrait rencontrer les deux dirigeantes et tenter de les gagner à sa cause. Même si elle échouait, ses alliés seraient suffisants pour persuader Rand de renoncer à son plan. La lumière veuille que la coalition suffise. Si Rand parvenait à imposer sa façon de voir les choses, Egwene préférait ne pas penser aux conséquences. Elle descendit vers le futur camp d'Elaine, saluant au passage des sœurs qui lui firent un signe de tête et des acceptés qui s'inclinaient. Sans parler des soldats qui lui rendirent son salut et des domestiques qui s'agenouillèrent. Rand allait
« C'est impossible !»
s'écria soudain Gawain, tétanisé.
« Que t'arrive-t-il »
demanda Egwene. Sans répondre, le champion partit soudain au pas de course. Mécontente, Egwene le suivit du regard. Il restait trop impulsif. Quelle mouche l'avait donc piqué ? Sa réaction n'avait rien d'alarmant, elle le sentait à travers le lien. En revanche, il était désorienté. Avec toute la célérité que lui autorisait le protocole, Egwene le suivit de loin. Quand elle le rejoignit, elle le trouva agenouillé devant quelqu'un. Une femme d'âge mûr aux cheveux blonds tirant sur le roux. L'inconnu se tenait à côté d'Elaine, toujours perchée sur son cheval et rayonnante comme jamais.
« Eh bien, on dirait que c'est vrai. »
Egwene avait eu vent de cette rumeur la nuit précédente, attendant confirmation avant d'en parler à Gawain. Morgaz Trakand était toujours vivante. Pour l'instant, Egwene décida de rester à l'écart. Si elle approchait, Elaine devrait embrasser sa bague au serpent, et toute la colonne serait tenue de se prosterner. De quoi gâcher la joie de Gawain. Alors qu'elle attendait, les nuages commencèrent à s'effilocher. Soudain, ils se déchirèrent, le fer de lance noire de la tempête reculant pour céder la place à un ciel bleu limpide. Les yeux ronds, Elaine se tourna sur sa selle, en direction du camp de Perrin.
« Il est donc là, » pensa Egwene. Aussitôt, le ciel est redevenu serein. Le calme qui précède la tempête qui détruira tout.
« À toi d'essayer, Marine !»
dit Androl. Avec un petit groupe, il se tenait dans un bosquet, près de la lisière du complexe de la Tour Noire. Le noble se connecta à la source et se concentra. Aussitôt, des flux apparurent autour de lui. Pour quelqu'un de si peu entraîné, il était très doué. Pour preuve, il tissa sans peine les flux requis pour ouvrir un portail. Au lieu de générer un passage, les flux se détissèrent et disparurent. Le front lustré de sueur, et Marine se tourna vers ses compagnons.
« Canaliser ces flux m'a paru plus difficile que d'habitude, » confia-t-il.
« Pourquoi ne fonctionne-t-il pas ?»
demanda Evin. Le jeune homme avait rougi de colère, comme si le problème avec les portails était une insulte personnelle. Les bras croisés, Androl secoua la tête. Secoués par le vent, les arbres bruissaient, et des feuilles se détachaient de leurs branches. Mordoré, comme si on était en automne, ce phénomène agaçait Androl. Durant ses voyages, il avait passé un certain temps à travailler la terre. De cette expérience, il avait retiré le sens du bien et du mal très particulier d'un fermier, quand il s'agissait des cycles du climat.
« Essaie aussi, Androl !»
dit Evin.
« Avec les portails, tu es le meilleur !»
Androl regarda ses trois compagnons, Canler complétant le trio. Ce fermier andorien vieillissant plissait pensivement le front, mais chez lui, c'était trop fréquent pour avoir un sens précis. Androl ferma les yeux, se vida de toutes ses émotions et se projeta dans le vide, là où le Saïdine brillait, symbole de vie et de pouvoir. Il s'y connecta et s'enivra de ce qu'il y puisa. Rouvrant les yeux, il découvrit un monde plus vif et vibrant. Des végétaux morts pouvaient-ils avoir l'air maladifs et vibrants en même temps ? Non. sauf quand le Saïdine rendait possible l'impossible. Androl se concentra. Pour lui, ouvrir des portails était plus facile que n'importe quel autre tissage. Pourquoi ? Il aurait été bien incapable de le dire. Pas fichu de briser le plus petit rocher avec le pouvoir, il réussissait sans peine à tisser un portail assez grand pour laisser passer un chariot. Pour Loghain, c'était très impressionnant. Taïm, lui, qualifiait la chose d'impossible. Cette fois, Androl infusa dans son tissage tout le pouvoir qu'il avait puisé dans la source. Les portails, il comprenait comment ils fonctionnaient. C'était logique. Parfois, il se demandait si ça n'avait pas un lien avec son amour du voyage. Cette passion de découvrir de nouveaux endroits et des arts inconnus. Les tissages lui obéirent sans qu'il remarque les difficultés dont Emarine avait parlé. Cependant, rien ne se passa, et les flux se détissèrent lamentablement. Androl tenta de les en empêcher. Un moment, il crut pouvoir les retenir. Mais ils lui glissèrent entre les doigts et disparurent, sans jamais avoir ouvert de portail.
« Tous les autres tissages que j'ai essayés ont bien répondu !»
dit Evin. Pour le prouver, il généra un globe lumineux.
« Tous, sans exception !»«
Donc, seuls les portails sont défaillants !»
marmonna Conler.
« C'est comme... »
hésita Emarine.
« Eh bien, comme si quelque chose voulait nous retenir à l'intérieur de la tour noire. »
« Vous devez tenter l'expérience à d'autres endroits, »
dit Androl.
« Mais sans que les fidèles du MAL vous voient faire. Il faudra dire que vous patrouillez, comme Taïm l'a ordonné. »
Les trois hommes acquiescèrent et se dirigèrent vers l'est du complexe. Androl sortit du bosquet et constata que Norlai l'attendait au bord de la route. Le petit Kyrienien à la taille fine le salua de la main et approcha. Androl l'accueillit aimablement. Norlai lui répondit avec un de ses sourires francs et engageants. Nul ne l'aurait jamais soupçonné d'être capable d'espionner quelqu'un. Une illusion dont Androl avait tiré parti.
« Tu as parlé avec Medzar ?»
demanda-t-il.
« Bien sûr, » répondit Norlai. « J'ai même déjeuné avec lui. »
En passant, Norlai salua Mishraïl, qui supervisait l'entraînement d'un groupe de soldats. La chamane blonde détourna la tête, dédaigneux.
« Et alors ?»
demanda Androl, très tendu.
« Ce n'est pas vraiment Medzar. »
annonça Norlai.
C'est son visage, certes, mais ce n'est pas lui. Je l'ai vu dans ses yeux. L'ennui, c'est que l'imposteur possède les souvenirs de Medzar et parle comme lui. Mais le sourire, ce n'est pas ça. Pas ça du tout.
Ça ne peut être que lui, Norlai.
Et pourtant, ce n'est pas lui. Je t'en donne ma parole.
Mais
ce n'est pas lui, un point c'est tout.
Androl inspira à fond. Quand Medzar était revenu quelques jours plus tôt, annonçant que Loghain allait bien et que tout serait très vite arrangé avec Taïm, Androl avait espéré qu'il serait enfin possible de sortir de cette mouise. Mais quelque chose chez Medzar lui avait semblé ne pas sonner juste. Il y avait pire. Le MAL avait fait toute une affaire de l'accession de Medzar au rang d'Achaman. D'ailleurs, c'était le dragon en personne qui l'avait nommé. Jusque-là fervent partisan de Loghain, Medzar avait commencé à passer son temps avec Kotéren et d'autres sbires de Taïm.
« C'est en train de mal tourner, Androl, »
souffla Norlai, tout en saluant un autre groupe de soldats qui s'entraînait.
« Selon moi, il est temps de partir, que ce soit ou non contre les ordres. »«
Nous ne passerons jamais les postes de garde, »
dit Androl.
« Taïm ne veut même pas laisser passer les Aes Sedai. »« Tu as entendu parler du scandale qu'a fait la sœur joliment boulotte devant le portail l'autre jour ?»« La nuit, Taïm double la garde, et les portails ne s'ouvrent pas. »«
Eh bien, nous allons devoir agir, on dirait. Je veux dire, et s'ils ont eu Loghain ?» Que se passera-t-il ?
Je... Bon sang, je n'en sais rien du tout.
Va parler aux autres partisans de Loghain. Je nous regrouperai dans un seul baraquement. Avec les femmes et les enfants éventuels. Nous dirons au MAL qu'il fallait faire de la place pour ces nouvelles recrues. Et nous posterons également des gardes la nuit.
Ça ne risque pas d'être un peu gros ? La tour noire est dévisée. Ce n'est un secret pour personne.
Va voir les autres.
Bien sûr. Et toi, que vas-tu faire ?
Androl inspira à fond.
Allez à la pêche aux alliés.
Norlai bifurqua sur la gauche, mais Androl continua tout droit à travers le village. Ces derniers temps, de moins en moins de gens lui témoignaient du respect. Soit ils avaient peur, soit ils s'étaient ralliés à Taïm. Des groupes d'hommes en veste noire le regardèrent passer, les bras croisés. Devant leur indifférence inédite, Androl lutta pour garder son calme. En marchant, il remarqua Medzar, cheveux grisonnants et peau cuivrée de Domani, en grande conversation avec des sbires du MAL. Alors qu'il était du genre taciturne, Medzar sourit à Androl, qui hocha la tête et chercha à croiser son regard. Oui, Norley avait bien vu. Dans les yeux de ce type, quelque chose clochait, comme s'il n'était pas vraiment en vie. Pas un homme, mais une caricature. Une ombre habitant une enveloppe humaine. « Lumière, viens à notre secours !» pensa Androl en pressant le pas. Il continua son chemin en direction du secteur sud du village, où se dressait un petit groupe de cabanes aux murs de bois blanchis à la chaux et aux toits de chaume qui auraient eu bien besoin d'être remplacés. Androl hésita devant l'une de ces cabanes. Quelle mouche le piquait! C'était celle où vivaient les sœurs rouges. À les en croire, elles étaient venues pour lier des achamanes, mais jusque-là, elles n'en avaient rien fait. Un genre de ruse, à l'évidence. Et si elles étaient ici pour apaiser tout le monde, en réalité? Dans ce cas, il pouvait être sûr qu'elles ne s'acoquineraient pas avec Taïm. Quand on regardait en face la gueule d'un lion de mer, la cale d'un navire pirate ne semblait plus si détestable. Un dicton qu'Androl avait entendu quand il travaillait sur un bateau de pêche dans le sud. Mobilisant tout son courage, il toqua à la porte. La sœur, joliment boulotte, lui ouvrit. Son visage sans âge impassible, elle étudia son visiteur.
« J'ai cru comprendre que vous voulez quitter la tour noire, »
dit Androl, en priant pour ne pas être en train de commettre l'erreur de sa vie.
« Ton Emael a changé d'avis ?»
demanda la sœur, pleine d'espoir. Au point de sourire, un événement exceptionnel pour une Aes Sedai.
« Non, » fit Androl. « Pour ce que j'en sais, il vous interdit toujours de partir. »
« Dans ce cas, »
marmonna la sœur rouge. Androl baissa la voix.
« Aes Sedai, tu n'es pas la seule qui aimerait filer d'ici. »
Visage de marbre, la sœur dévisagea Androl.
« Elle ne me fait pas confiance. »
Étrange comme une expression vide pouvait en dire long sur une personne. Désespéré, Androl avança et glissa une main entre le battant et le chambranle.
« Quelque chose cloche ici, et c'est pire que ce que tu crois. Il y a très longtemps, les hommes et les femmes capables de canaliser le pouvoir coopéraient, et ils en devenaient plus forts. S'il te plaît, écoute-moi. »
La sœur hésita encore, puis elle ouvrit la porte en grand.
« Entre vite ! Tarna, qui vit avec moi, est absente pour le moment. Il faut en avoir terminé avant son retour. »
Androl entra dans la cabane. Était-ce la cale du navire pirate ou la gueule du lion de mer ? Il n'en savait rien, et il devrait faire avec.